Et depuis, j'accompagne particulièrement des startups ou des PME dans l'élaboration de leur politique de rémunération. Autrement dit, c'est quelles règles on doit définir et qu'on doit appliquer à tous pour mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise, ou sur des problèmes très ponctuels. Type, récemment, qu'est-ce que j'avais? L'amélioration d'index égalité homme-femme.
Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Trimoji, l'assistant soft skills intelligent pour sécuriser les recrutements et la mobilité interne. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation, je pars à la rencontre de recruteurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboard, encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de Future of Work.
La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sandrine Dorbe. Salut Sandrine.
Salut Aurélien.
Sandrine, toi tu es experte en stratégie de rémunération et tu es conférencière.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, ce que tu as fait dans ta vie et ton parcours jusqu'à arriver à ce que tu fais aujourd'hui?
Moi, aujourd'hui, je suis consultante indépendante en rémunération, c'est-à-dire que je travaille comme une freelance sur les problématiques de rémunération. Donc, après avoir passé plus d'une dizaine d'années dans le CAC 40, notamment au sein d'une grosse banque internationale, j'avais très envie de pratiquer mon métier différemment. Et mon métier, les initiés appellent ça le compensation and benefits, pour rémunération et avantages sociaux. Ce métier consiste à réfléchir aux politiques de rémunération, à ce qu'on doit faire dans l'entreprise en matière de bonnes pratiques, à suivre l'évolution de la masse salariale et à mettre en place des choses pour attirer, retenir les gens. Et donc ce métier, j'avais envie de le pratiquer un peu différemment. Je voulais sortir de l'univers CAC. J'étais très attirée par les petites entreprises depuis très longtemps. Et au départ, je voyais comme un blocage mon profil, parce que les super experts, les petites entreprises, elles n'ont pas besoin de nous à temps plein. Et c'est au hasard d'un petit déjeuner organisé par les anciens de mon école que j'ai rencontré un DAF à temps partagé et un DRH à temps partagé. Alors, autant te dire qu'à l'époque, je connaissais pas du tout le modèle. C'était hyper exotique, mais j'ai trouvé ça génial. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux faire mon métier d'expert, mais pour différentes structures en même temps. Donc, être consultante.
Ok. Et j'ai parcouru ton profil, tes expériences. Tu as fait plein de trucs. Tu peux nous expliquer un petit peu comment, parce que j'ai vu que tu étais forcément associé à la paix, à la comptabilité, tout ça, tu as fait de la chasse de talent. Tu peux nous expliquer un petit peu comment, quelles expériences tu as eues et comment on devient consultante indépendante?
Comment on devient consultante indépendante? Avant ça, comment on devient compagne-ben? Alors, moi, j'ai un trait de caractère qui est, j'aime bien faire plein de choses différentes. Alors, j'en rigole parce que les gens autour de moi se moquent gentiment de « mais qu'est-ce que tu vas encore trouver? Qu'est-ce que tu vas encore inventer ?» J'ai toujours aimé faire des choses très différentes. Et par contre, j'aime faire. J'aime bien lire, j'aime bien étudier, mais j'aime bien faire. Et au départ, j'avais fait des études de chimie, donc absolument rien à voir. C'était un échec cuisant. J'ai perdu 2 ans. J'ai passé 2 ans à être médiocre en sciences. Et après une grosse remise en question, je m'étais rendu compte que mon truc, c'était la gestion. Donc au départ, je m'étais dit, bon, gestion, je sais compter. Naturellement, je vais aller vers l'aspect comptabilité, finance. Ça me rassurait. Et puis en fait, j'aimais bien ça. J'aimais bien la compta. Je trouvais ça hyper sympa de la mécanique comptable. Voilà, les flux financiers, je trouvais ça hyper intéressant. Et heureusement que j'ai fait toutes mes études en alternance, parce que étudier la compta, je trouvais ça top, mais alors l'affaire, ça ne me plaisait pas.
Ouais, c'est autre chose.
Mais vraiment, si je n'avais pas fait mes études en alternance, j'aurais continué dans cette voie. Je me serais peut-être lancée vers une expertise, alors que c'est pas tellement ce qui me parlait. Et ce que j'avais préféré dans les 2 ans que j'avais passé dans ce service comptable, c'était les déjeuners avec les filles de la RH. C'est un peu caricatural, mais c'était vraiment les filles de la RH. J'adorais, on déjeunait ensemble, on s'entendait hyper bien, et fatalement au déjeuner, tu finis toujours par parler des dossiers sur lesquels tu es en ce moment. Alors, il y avait beaucoup de confidentialité, elle ne me disait rien de secret, mais je trouvais que les problématiques qu'elle traitait étaient vachement plus excitantes que les miennes, quoi. C'est pour ça que, comme en continuant mes études, une fois que j'avais fait mon DUT de gestion compta, je m'étais orientée vers une licence de gestion un peu plus généraliste, toujours en apprentissage, et je m'étais dit, allez, je vais me tester en ressources humaines. Peu de prise de risque, je suis partie vers la paye, parce que je me suis dit, bon, après tout, je sais compter, ça peut être utile. Hyper intéressant, la paye. Intellectuellement aussi, j'aimais bien le côté carré, le côté ça tourne. Je veux dire, quand à la fin, ton bulletin, il est juste, t'es contente, quoi. Tu sens que t'as bien pigé le truc. Je l'ai fait dans un contexte un peu particulier. Le contexte, alors c'était à l'époque les dates m'échappent, mais c'était à l'époque de Villepin. Quand il avait mis en place le CPE, je ne sais pas si tu as ça en tête, ce contrat pour les jeunes où pendant 2 ans tu étais en période d'essai.
Ouais, bien sûr.
Et justement, à l'époque, j'étais chez IBM, donc énorme cabinet de conseil de solutions, qui faisait de l'externalisation de la paie. Je ne sais pas s'ils le font encore. Et à l'époque, on externalisait la paie, ils prenaient la paie de la FNAC, qui essayait de tout externaliser. Donc hyper intéressant, des cours à la FNAC, les modes de fonctionnement, tout ça, tout ça. Et pourquoi je te parlais du CPE? Parce que justement, l'équipe qui avait été montée pour gérer la paye de la FNAC, il y avait moi et une autre apprentie, deux, trois consultants IBM à temps plein, et les autres, c'était que des nanas, une fois de plus, cliché mais vrai, en CPE. Alors si tu as bonne mémoire, tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on pouvait faire du CPE? Parce que c'était destiné aux entreprises de moins de, je ne sais plus combien, mais pas IBM. Bah, tu vois, c'est là où tu découvres toutes les petites magouilles. Alors, je mets des guillemets, hein, j'aimerais pas avoir un procès parce que j'ai dit ça. Mais en tout cas, tous les petits arrangements qu'on peut trouver dans le monde de l'entreprise, du conseil, de la prestation pour réussir à avoir toute une équipe dans des conditions beaucoup plus, enfin, beaucoup moins avantageuses. Ça dépend de qui aggrave le truc que si tu avais recruté des salariés classiques chez IBM, quoi, avec les avantages qui vont avec. Donc, je trouvais que la paye, c'était intéressant. Mais ce qui me fascinait, c'était ce que je voyais autour de moi, de comment est-ce qu'on construisait un projet comme ça, comment est-ce qu'on gérait l'externalisation totale d'un service qui, pour moi, est clé dans une entreprise. Alors, à l'époque, je n'avais pas autant conscience qu'il était clé, mais aujourd'hui, c'est une certitude. Externaliser sa paye, c'est une erreur, à mon sens. Comment est-ce que tu t'arranges avec les règles en place, comment tu blablabla. Bla, bla, bla. Je trouvais ça fascinant. Sortie de la paye, je m'étais dit, OK, il me reste 2 ans d'études, il faut que je teste d'autres métiers RH. Et là, je me dis, bah tiens, le recrutement. Le recrutement, moi, ça me faisait un peu, je trouvais, je ne vais pas dire que ça me faisait rêver, mais j'avais une super bonne image du recrutement, le fait, je sais pas, d'être un peu en représentation, ils étaient toujours hyper chic, les recruteurs, d'aller chercher, d'aller voir, d'essayer de détecter ce qu'il y a derrière un discours. Je trouvais ça hyper intéressant comme démarche. Et là, je suis allée dans une toute petite structure. Je voulais faire le grand écart avec IBM. Toute petite structure, c'était un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les métiers financiers. Et je crois qu'ils étaient 10, quoi. On était 10, un truc comme ça. Et au moment où j'ai été recrutée, il y a eu la crise, une grosse crise financière qui fait que bah,
Celui de 2008 des subprimes.
les traders, tu n'avais pas besoin de les chasser, hein. Ils venaient tout seuls. Donc, en termes de technique de chasse, on ne peut pas dire que j'ai appris grand-chose. Mais alors, culturellement, là aussi, c'était hyper intéressant. Déjà, je trouve que d'arriver en sécurité sur un marché qui est en train de s'effondrer, bah, ça te permet d'observer les choses. Je dis en sécurité parce que bah, j'étais apprenti. Moi, il ne pouvait rien m'arriver, entre guillemets. On n'allait pas me licencier, je n'allais pas perdre mon boulot. Enfin, j'étais dans un cadre qui me permettait d'être relativement sereine. Du coup, là, je voyais la vie d'une toute petite entreprise qui dépendait d'un secteur qui était complètement ravagé. Et tu vois la vie d'entreprise qui change, tu vois les gens qui commencent à s'inquiéter, les tensions qui montent en interne, les problèmes qui commencent à survenir, qui ne sont pas liés au boulot, hein, mais qui font que l'opérationnalité est très... mince le mot, pas gêné, c'est nul de le dire comme ça, je suis désolée, je vais te faire un peu de montage, mais en tout cas, tu vois tous les petits problèmes qui émergent entre les gens qui font qu'on ne peut plus travailler correctement. Et puis la boîte a coulé, tout simplement. Donc là aussi, c'était intéressant de voir, de vivre ça. Alors je le dis pas, je veux pas que ça paraisse indécent, hein, mais culturellement là aussi, je trouvais que c'était intéressant de voir comment une petite société vivait, survivait et puis ensuite disparaissait complètement. Et ensuite, il me restait une année d'études. Et là, je me suis dit, ok, je veux faire du conseil. Je veux faire du conseil. Le conseil, ça m'attirait beaucoup. Pas pour les bonnes raisons, je pense. Je voulais faire du conseil, j'avais en RH, je pensais, je n'étais pas sûre de moi. J'avais un dilemme que j'avais partagé avec mon directeur scientifique de l'époque qui était « J'aime la finance, j'aime la RH, je ne sais pas quoi choisir. » Et c'est là où, en rigolant, il m'a dit « Mais il y a un métier pour les gens comme vous, Sandrine. Ça s'appelle le compendium. » Je découvre ce milieu-là de la rémunération qui, effectivement, allie la finance et les ressources humaines. J'intègre un cabinet de conseil en rémunération, très formateur. Là, mon champ d'action, c'était la rémunération des dirigeants mandataires sociaux du CAC 40. J'ai trouvé ça hyper intéressant, humainement. Là aussi, c'était intéressant de voir comment ce type de structure fonctionne, comment les gens interagissent entre eux. Néanmoins, vraiment, je ne me projetais pas du tout dans le conseil. J'étais très frustrée. Il fallait travailler énormément. Alors ça, en soi, ce n'est pas ce qui me posait le plus de problèmes. Mais je ne me projetais pas. C'est-à-dire que je pouvais faire une petite nocturne sur un dossier. Le lendemain, le consultant allait porter le dossier au client et discuter avec lui. Quand il rentrait, je disais, bah alors du coup, qu'est-ce qu'il en a pensé? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi la suite? Et le consultant qui gère le sujet me disait, ils étaient contents, maintenant, ça les concerne, quoi. Ce qui nous concerne, nous, c'est les autres dossiers qui sont en cours. Donc, je voyais bien ce qui les excitait, eux, qui était d'avoir à gérer plein de dossiers en même temps, d'arriver avec un avis et puis de donner l'avis et de repartir. Mais moi, j'avais envie de m'intégrer quelque part, de me poser un petit peu et de voir, de participer à l'évolution d'une structure, à sa croissance.
La mise en place du plan proposé. Quoi.
Voilà, et de voir qu'est-ce que ça donne dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, comment on fait évoluer tout ça. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, vraiment, j'aime bien la position du consultant, mais je vais un peu trouver dans le remontage, désolé.
Et t'inquiète pas, il n'y aura aucun montage. Les gens attendent. Tranquillement.
Je suis un peu vite dans la timeline, mais ensuite, là, je suis allée dans un service RH. Donc, j'étais l'adjointe de la DRH du service RH d'un établissement public. Donc, adjoint, c'était un bien grand mot, parce que moi, mon champ d'action, c'était uniquement le pilotage de la masse salariale. Voilà, le contrôle, le pilotage de la masse salariale. Donc, beaucoup de reporting avec le secrétariat général, comme on dit dans la fonction publique. Et suite à ça, je suis rentrée chez BNP Paribas, où j'ai commencé au groupe BNP Paribas, où là, je devais suivre le provisionnement des actions gratuites, des stock options, des bonus différés, ce qui est très particulier dans le milieu de la banque. Et ensuite, je suis allée en filiale. Moi, j'étais chez CTLM. J'y suis restée près de 10 ans, où j'étais au service rémunération du central, comme on dit, et je devais à la fois m'assurer que la politique du groupe était bien implémentée dans toutes les filiales de CTLM. Je devais piloter la révision de salaire, qui est un gros process. Nous, on commençait en septembre, on terminait en mars. Et ensuite, être le soutien des RH terrain qui avaient régulièrement des questions des managers, des collaborateurs sur la rémunération. Au bout de 10 ans, j'avais ce petit truc. Ça faisait longtemps que je me projetais plus dans la banque. Je ne savais pas trop où était C'était quoi mon next step, quoi. J'ai commencé à passer des entretiens et je me projetais nulle part. C'était très frustrant. Et je m'étais dit, mais en fait, il n'y a rien qui va... je voulais de la nouveauté. Je me suis dit, mais il n'y a rien de nouveau qui va m'arriver. Il n'y a rien de différent qui va m'arriver si je ne fais rien de différent. Donc, j'ai fait quelque chose de très simple, mais qui a été révolutionnaire pour moi, c'est que j'ai commencé à sortir du bureau. J'ai commencé, c'était avant le Covid, c'était plus facile. Maintenant, il y a un peu, les événements reviennent, mais c'est pas non plus encore ce que c'était avant. Je suis sortie du bureau et donc j'allais à des after work, à des petits déjeuners, à des ateliers sur la pause méridienne, enfin, pour rencontrer des gens différents et pour faire des choses différentes. Et c'est là que je rencontre justement ces deux personnes, le DAF et le DRH à temps partagé, où je me dis, mais c'est ça le truc en fait que je dois faire. Donc je me suis lancée début 2020. En mars 2020 précisément, et depuis j'accompagne particulièrement des startups ou des PME dans l'élaboration de leur politique de rémunération. Autrement dit, c'est quelles règles on doit définir et qu'on doit appliquer à tous pour mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise, ou sur des problèmes très ponctuels, type récemment, qu'est-ce que j'avais, l'amélioration de l'index égalité homme-femme. Il y avait une problématique, le board voulait que l'index gagne 2 points, comment on fait concrètement? Des problématiques d'une équipe en particulier à une grille de rémunération qui est plus adaptée et il y a beaucoup de choses à rediscuter sur leur évolution. Ça, On a travaillé là-dessus, sur la rémunération des dirigeants. Voilà, donc c'est soit on travaille sur la politique en tant que telle, soit sur des problèmes ponctuels. Et je suis complètement sortie du cadre.
Ok, ok. C'est intéressant, hein. C'est très très intéressant. T'as fait attiré par les petites entreprises, tu m'as dit tout à l'heure, qui n'ont pas forcément besoin de temps plein. Alors, si on fait un retour en arrière, tu m'as dit donc recrutement, métier financier, crise 2008, tu vois l'opérationnel changer, la boîte qui coule, tout ça, conseil en rémunération derrière, mandataire sociaux du CAC 40, parce que tu aimes la finance et la RH, adjointe RH dans le public, pilotage reporting masse salariale, après t'es passé en banque, BNP Paribas, bonus stock option, filiale CTLM, service REM, assurer la politique du groupe, la révision de salaire et le soutien pour les questions sur la REM. Et après, derrière, tu te dis, OK, c'est parti, indépendance, let's go. Tu as dit un truc tout à l'heure, externaliser sa paix, c'est une erreur, même pour les PME.
Oui.
D'accord, pourquoi?
Alors déjà, il faut qu'on définisse externaliser.
Ouais, vas-y.
Les personnes qui prennent un service qui les aide à faciliter la paie, à accélérer, pourquoi pas? Je comprends bien que... Mais moi, je trouve qu'il y a une. La paye, vraiment un sujet qui est hyper irritant. Dans les raisons pour lesquelles je n'ai pas continué en paye, c'est que je suis une petite chose fragile, je suis sensible, et que la paye est le métier le plus ingrat, vraiment, de l'entreprise. Le paye est le métier le plus ingrat. Demain, alors je te dis toi, mais ce n'est pas toi. Hein, demain, tu as une erreur sur ta paye, il te manque 2 euros. Tu auras l'impression qu'on t'aura lésé et tu vas aller râler au ton service RH qu'il y a une erreur et que c'est pas normal, nanana. Quand ta paye est bonne, jamais tu passes une tête dans le service pour dire merci, tout est bon. Et quand je dis ça, on me dit souvent bah ouais, mais c'est leur boulot de le faire. Bah ouais, mais c'est pas un boulot qui est si facile que ça, en fait. C'est hyper technique. Même quand on a un outil qui nous prémâche le boulot, il y a toujours une petite erreur quelque part et cette erreur, elle est jamais pardonnée. On dit pas non, mais ouais, bien sûr, ça arrive, pas de souci, je comprends. La paye, ça tend beaucoup les gens. Et je trouve qu'il y a beaucoup de richesse à avoir au sein de l'entreprise quelqu'un dont la porte va être ouverte, où on peut passer une tête pour dire « Dis donc, il y a un truc que je n'ai pas compris sur mon bulletin, est-ce qu'on peut regarder ensemble ?» Et la personne, elle ne va pas mettre 2 heures à retrouver l'erreur parce que ce n'est pas elle qui l'a fait, parce qu'elle va tout de suite voir où est le problème parce qu'elle comprend parfaitement la paye et parce que c'est elle qui a fait les bulletins. Donc, elle va bien comprendre ce qui a été fait ou pas fait, d'où vient l'erreur, s'il y en a une, ou faire la pédagogie. Moi, je trouve que ça, c'est un peu vieux jeu. Mais j'aime bien cette idée-là, qu'on a la compétence en interne et qu'on peut être à l'écoute des gens qui se posent des questions sur le sujet qui est à la fois hyper ingrat, mais j'allais être vulgaire, mais c'est imbitable la paye quand on n'y connaît rien, quand on n'est pas dedans. Il y a beaucoup de RH qui ne comprennent rien à la paye non plus. Donc, je trouve que c'est vraiment une compétence à avoir en interne. Non pas qu'elle soit stratégique, mais elle rassure.
Ouais, compris. OK. Après, bon, pour moi, les PME ou les TPE qui se lancent, elles ont besoin aussi d'être... De vendre un produit, c'est quand même une fonction support qui peut être externalisée dans un premier temps, mais je comprends que d'avoir une connaissance en interne, ou en tout cas que les fondateurs y comprennent un peu quelque chose, c'est important, quoi. Donc là, on a introduit la rémunération. T'as expliqué brièvement ce que c'est experte en rémunération, quoi consiste ton travail au quotidien. C'est quoi tes enjeux quand t'arrives, tu prends une mission? Tu peux nous donner un exemple concret? T'es pas obligé de citer le nom de la boîte, mais qu'est-ce qui se passe quand t'arrives dans la boîte? Tu fais un audit? Qui tu vas interroger? Ce que tu fais? Et quels sont les livrables ou les attendus qu'on attend de toi?
Alors, quand j'arrive quelque part, je commence toujours par un audit. Parce que, comme je te disais, je suis une... C'est ça que j'aimais pas dans la posture de consultant il y a 15 ans, mais je suis une faiseuse. Moi, je me voyais plus comme une gestionnaire. Et donc, j'ai besoin intellectuellement d'avoir les trucs dans les doigts, tu vois, de les avoir manipulés moi-même pour comprendre. Sinon, parfois, je bloque. Donc, j'ai besoin d'aller voir la donnée moi-même. Donc, je regarde toutes les données de rémunération. Je regarde comment est construit, c'est quoi la structure de rémunération de l'entreprise. Je regarde tout ce qui a trait à la rémunération. Donc, quand on a écrit une note, un truc, un machin qu'on a partagé avec les équipes, quand on a un plan d'intéressement, quand on a des avantages, etc. Je regarde tout ce qui existe déjà. Et après, je parle beaucoup avec les dirigeants et ou la RH. Et là, alors là, ça dépend. Il y a des entreprises où ils sont ensemble, le dirigeant et la RH sont deux fonctions qui sont représentées en même temps. Et parfois, je rencontre le ou la dirigeante au début. Et puis après, je travaille surtout avec la RH. Et parfois, je travaille qu'avec le dirigeant, la dirigeante. Ce qui est pas un bon signal en général, hein, je trouve, de la fonction quand on ne met pas la DRH dans la boucle. Mais bon, ça c'est autre chose. Et là, on discute de l'entreprise. C'est quoi son histoire, depuis quand elle existe, c'est quoi son produit, c'est quoi son objectif à un an, deux ans, quelle stratégie elle a mis en face de cet objectif, d'un point de vue très business, hein, on n'en est pas encore à la RH. Et ensuite, on descend d'un cran à la RH. OK, par rapport à cette stratégie business, quelle stratégie RH on a mis en place pour servir les objectifs de l'entreprise. Et ensuite, on redescend. OK, alors en termes de politique, une politique, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de règles qui s'applique à tous et à toutes. Et cet ensemble de règles, il doit servir à mettre en œuvre opérationnellement la stratégie de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a bien discuté de où est-ce qu'on est censé aller, on discute après de concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour y aller. C'est quoi le quotidien. Et l'autre sujet qu'il faut absolument aborder, c'est la culture de l'entreprise. On parle beaucoup de l'entreprise avec un grand E, où on dit les entreprises, mais on a l'impression que c'est un ensemble. Parfois, quand on le dit, c'est un espèce d'ensemble commun. Voilà, c'est les entreprises, comme si elles se ressemblaient toutes. Alors que vraiment, j'exagère un peu quand je dis qu'il n'y a pas deux boîtes pareilles, mais pas loin. En termes de culture, en termes d'état d'esprit, en termes de valeurs, il y a beaucoup de choses qui diffèrent d'une entreprise à l'autre. Et ça, il faut le prendre en compte quand tu définis les règles. Il y a des choses qui peuvent très bien marcher dans une entreprise et pas du tout marcher dans une autre entreprise.
Quoi, par exemple?
Alors, typiquement, en ce moment, c'est le sujet, mais la transparence. Il y a des environnements dans lesquels les gens sont prêts à ça, la transparence, et d'autres dans lesquels ils ne sont pas prêts. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller, hein. Mais je donne un exemple d'une entreprise que j'avais suivie, une petite société, ils étaient 50. Et eux, ils avaient un rituel qui était toutes les semaines, à la fin de la semaine, la RH envoyait une question à toute l'équipe. Alors, ils faisaient ça à travers un outil, hein, c'était une question simple. Les gens répondaient par oui, par non, c'était pour tester un peu l'ambiance. Et il y avait tout un chantier sur la politique de rémunération qui était fait. Et quand les dirigeants avaient un doute, quand le dirigeant, en l'occurrence, et la RH et le comité de direction n'étaient pas sûrs d'eux, ils se disaient, ça, on va le soumettre au vote de l'équipe. Donc, est-ce que c'est intéressant qu'on refonde les règles? Oui. Est-ce que c'est intéressant qu'on ait une grille? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on publie les règles de la grille? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on publie la grille? Et là, ça a été un non absolument massif. Et c'est hyper intéressant parce que c'était une entreprise où, enfin, la moyenne d'âge était de moins de 30 ans. Le dirigeant, lui, rêvait de faire un truc à la Alan, complètement transparent. Et là, il se rendait compte que ses équipes ne le voulaient pas. Donc, il aurait copié-collé une pratique qui marche hyper bien dans une boîte dont on parle beaucoup et qu'on met beaucoup en exergue grâce à ça. Enfin, grâce à ça, non, mais quand on parle d'Alan, on parle d'abord de ça. Et en fait, ces équipes n'étaient pas prêtes, n'en voulaient pas. Là, je pense à un autre client sur lequel on avait travaillé où, au départ, on avait fait la politique de rémunération et pas de transparence. Ils ne voulaient pas de transparence, ce n'était pas possible. Et vraiment, ils y croient. Enfin, c'était leur croyance, on ne pouvait pas mettre en place la transparence. Six mois après, on a descendu toutes les règles au niveau des managers. Et rien que ça, c'était une révolution. Et quand on s'est dit, OK, on va descendre toutes les règles de rémunération au niveau des managers, révolution, mais jamais on fera la transparence totale. Jamais on va descendre auprès des collaborateurs, ça n'a pas marché, blablabla. Un an après, ils y sont. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont naturelles, où on se dit, mais c'est évident, ce truc-là, c'est pour nous, il faut qu'on y aille. Et il y a des choses où c'est pas évident, il faut donner le temps à tout le monde d'aller vers quelque chose, vers un truc commun.
Oui, bien sûr, poser la question avant. Ouais. Et c'est quoi les tendances actuelles en matière de rémunération que les entreprises devraient connaître?
Alors, écoute, la transparence, c'est plus qu'une tendance, hein, ça va être une obligation. Puis bon, on en parle vraiment beaucoup. Et c'est drôle parce que avant que la loi, enfin, c'est pas une loi, c'est une directive européenne, avant que la directive européenne soit votée et qu'on en parle comme une future loi, les gens, peut-être de mon point de vue, hein, sachant que j'ai pas une vision non plus exhaustive du climat social des entrepreneurs et des entrepreneuses français, mais ils sont moqués un peu, quoi. Ils disaient, oui, bon, la transparence, c'est pas pour moi, basta. Là, moi, je sens que ça les tend. Ça les tend parce qu'ils disent, on va m'obliger à faire un truc auquel je ne crois pas et que je ne veux pas. Et il y a beaucoup de tension, quoi. Et parfois, juste par être transparent, ça électrise l'assemblée. Et pourtant, Et pourtant, la transparence, ça apporte vraiment des choses. C'est hyper vertueux. Ça permet. La transparence. Quand je parle de transparence, on me dit, bah non, moi je peux pas faire comme Alan ou comme Lucas ou comme Vendredi, enfin toutes ces boîtes qui sont dans une transparence totale. Moi, c'est pas ce que je dis. Je dis que la transparence, le niveau minimal de transparence, c'est répondre à deux questions. Dans la vie, toi et moi, on se pose deux questions fondamentales. La première, c'est comment j'en suis là où j'en suis? Comment on explique ma situation? La deuxième question fondamentale, c'est où est-ce que je vais? Comment je vais évoluer? Vers quoi je vais? C'est quoi mon objectif? Les gens qui se projettent plus dans le futur, c'est les gens qui sont en dépression. C'est souvent les questions que les psy, enfin les médecins, pour détecter un peu si les personnes sont en dépression, c'est un peu c'est une des questions clés, quoi. Est-ce que vous vous projetez ou pas? Quand les gens disent, ah non, pas du tout, je me projette pas. Ce qui est très différent du, je sais pas ce que je fais dans 5 ans. Et en matière de rémunération, c'est pareil. On a besoin de comprendre notre situation. Pourquoi est-ce que je suis à 40 alors que mon collègue, il est à 42? Et comment ce 40, il va évoluer dans le temps? Et ça, il faut y répondre de manière précise. Parce que le truc un peu vague de dire en fonction de la prochaine évaluation annuelle, en fonction du budget, en fonction de tes performances et en fonction du cycle de la Lune décroissant ou pas, tu auras peut-être une augmentation. On ne peut pas dire le montant parce que ça dépend de trop de trucs. Ça, c'est beaucoup trop vague. Ça ne répond pas à la question. Par contre, d'être très clair sur les règles qui permettent de définir un salaire et les règles qui vont très concrètement donner lieu à une augmentation. Tu réponds à 80% des questions des gens. La transparence, on commence par ça. Et après, on
D'accord.
signole.
Oui, la transparence, c'est pas forcément que les gens connaissent le salaire de leurs collègues, mais c'est être transparent sur les modes de rémunération de chacun, comment est calculé le salaire de chacun et quelle est la façon de grimper en fait dans la rémunération et les règles imposées par la direction, quoi.
Parce que tu vois, là, le sujet, à un moment donné, le gros truc, c'était les grilles. Si tu fais une grille, mais que tu n'es pas très clair et très précis sur les différences entre une case et l'autre, tu ne répondras pas aux questions des gens. Ils vont rester tout frustrés parce qu'ils vont continuer de dire, mais pourquoi je suis à 40 et que l'autre, il est à 42? Vous n'êtes pas au même niveau. Mais ça veut dire quoi, on n'est pas au même niveau? Oui, vous n'avez pas le même niveau de responsabilité. Mais c'est quoi la responsabilité? C'est quoi l'autonomie? C'est quoi la performance? En fait, il y a beaucoup de termes comme ça qu'on utilise. Tous les jours, la justice, l'équité, la bienveillance, des termes qu'on utilise parce qu'on pense que c'est communément admis, et en fait, ce n'est pas le cas. Tu vois, la performance, je ne sais pas ce que c'est, moi, la performance. D'une situation à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'un moment à l'autre, on n'a pas la même définition de la performance. Donc, de dire la responsabilité, c'est pareil. C'est quoi être responsable? Tu peux être manager de 3 personnes, tu peux ne pas être manager et avoir pourtant à piloter un budget conséquent qui peut, si tu te plantes, avoir des répercussions catastrophiques sur l'entreprise. C'est quoi la responsabilité? Bref, tu vois, il y a tout un boulot, en fait, de philosophie, d'être très précis sur qui on est, où on va. Et quand on utilise un mot, en fait, on l'explique. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter. Alors, je suis désolée si je radote un peu, mais j'aime beaucoup raconter cette anecdote parce que pour moi, elle dit tout, quoi. J'avais un client, on avait travaillé sur sa politique de rémunération, tout ça, et il me rappelle parce qu'il est en conflit avec un de ses collaborateurs. Donc, je vais le voir, il me raconte l'histoire, et il conclut en me disant, bah, tu vois, j'ai pris cette décision parce que pour moi, c'était juste. Et je lui dis, mais ouais, carrément, je t'écoute, ce que tu as fait, c'est hyper juste. Je rencontre le collaborateur ensuite. Le collaborateur me raconte la même histoire. Il n'y a rien qui change, hein. Les événements, les faits sont absolument les mêmes. Les sentiments sont différents, clairement, mais les faits sont les mêmes. Et il conclut son histoire en me disant, mais tu vois, moi je trouve que ce qu'il a fait, c'est profondément injuste. Et je lui dis, mais ouais, carrément, tu as raison, ce qu'il a fait, c'est injuste. C'est pas que je ne sais pas où me positionner, c'est qu'en fait, chacun dans leur aquarium, ils ont raison. Ils n'ont pas la même définition de la justice et ils utilisent un mot sans s'assurer que l'autre en face a la même définition. Donc en fait, ils ne parlent pas ils sont persuadés qu'ils parlent de la même chose et que l'autre en face fait preuve d'une mauvaise foi crasse, alors qu'en vrai, ils ne parlent pas de la même chose. Donc quand quelqu'un me dit, moi, ma politique de rémunération, elle est juste, j'attends une petite virgule parce que, explication, explication. Et c'est comme pour la bienveillance. Tu vois, quand moi, on me dit, nous, on a réussi à mettre une culture d'entreprise hyper bienveillante, bah, si tu mets un point à ta phrase, je suis bien démunie parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que j'attends, c'est que nous, on a une culture très bienveillante et ça se voit à travers telle chose, telle chose, telle chose. Tu vois, le... Alors, j'ai un peu digressé par rapport à ta question, mais je suis ceinture noire de digression. Hein.
Non, mais ça reste dans le thème parce que je te demandais les tendances actuelles en matière de rémunération que les entreprises devraient connaître. Tu me parles effectivement de la transparence, donc dire les règles d'évolution ou politiques de rémunération sont intéressantes à mettre en avant pour tous les collaborateurs, avoir une transparence, une grille, etc. De pas forcément afficher les salaires des gens par rapport aux autres et machin, sauf que les collaborateurs discutent entre eux, donc pourquoi pas les afficher. Après, il y a une question que je me pose, c'est si tu définis une grille avec des cases pour monter, descendre dans la grille et machin, etc. Là où il faut effectivement poser les choses, c'est comment j'évolue et en fonction d'une performance et avoir une définition sur chacun des mots. Qu'est-ce que est la performance ? La performance peut être différente. Alors pour les commerciaux, performance c'est souvent associé au gain, etc., etc. La performance sur d'autres postes, c'est complètement différent. En fait, l'ascension un commercial dans une boîte ou l'ascension d'un directeur de formation ou quelqu'un qui s'occupe du support ou ce genre de choses, c'est pas forcément les mêmes ascensions. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Est-ce que tu as déjà rencontré des boîtes où en fait les commerciaux étaient super bien payés et le reste en fait stagnait et n'était pas content?
Oui, ça c'est un problème assez classique quand tu as une activité commerciale forte. Que tu as besoin de rockstar. Et puis les commerciaux, ils ont un truc, ils savent se vendre, hein. Ils savent se vendre, ils savent se défendre, ils savent argumenter, ce que beaucoup de gens sur les fonctions support ne savent pas faire.
Hein. Effectivement, oui.
Tout genre confondu. Il y a des gens qui ne savent pas défendre leur intérêt. Et tu vois, je trouve que dans notre culture, il y a un petit côté où ça paraît un peu malvenu, tu vois, d'aller défendre son beefsteak. Les commerciaux, ça fait partie de leur ADN. Même quand ça nous agace, on se dit, mais c'est normal, ce sont des commerciaux. Et du coup, il y a dans ces cas-là où les commerciaux, on veut les valoriser parce qu'on en a besoin et on les traite comme des rockstars, qu'ils le soient ou pas. Derrière, tu as des fonctions support qui disent, mais attends, les commerciaux sont sûrement très bons, mais en fait, le produit est bon aussi. Ils ne sont pas magiciens, les commerciaux. Ils vendent un produit parce qu'ils savent bien vendre, parce que le produit est bon aussi. Et puis, on fait très bien le support. Et puis, quand il y a un problème au SAV, et puis les factures à la compta, c'est qui les passe, etc. etc. Donc, tu as une espèce de frustration qui monte, qui dit, mais en fait, c'est pas juste. Qu'est-ce que la justice ? C'est pas juste que eux soient aussi autant valorisés financièrement et pas nous, alors que si on regarde la big picture, eh ben, on fait autant le job, quoi, et on apporte autant de valeur à l'entreprise. Ça se voit pas. En chiffre d'affaires mensuel, mais on participe à ça.
C'est ça, c'est que tous les wagons du train font qu'il avance.
Et du coup, il y a plein d'entreprises que je vois où il y a des vraies tensions entre le support et les commerciaux et où ça grippe un peu l'opérationnel aussi. Tu vois, parce qu'ils ne s'entendent pas, et ben quand il y a un problème, ils ne font pas particulièrement des... Je tire un peu le trait, mais je suis sûre que tu auras en tête des situations que tu as vues. Parce qu'ils ne s'entendent pas humainement, au moindre problème, personne ne fait un effort et on se renvoie la balle en disant mais c'est pas moi, c'est l'autre, c'est l'autre service, c'est truc, c'est machin, moi j'ai fait mon boulot, et où finalement on se file pas le petit coup de main qui va résoudre la situation et va faire qu'on va continuer à bosser correctement sans chercher qui est le coupable, qui a fait quoi. Donc le sujet de la rémunération, c'est toujours quelque chose, moi je dis la rémunération c'est pas qu'une question d'argent, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose derrière. Quand on va se plaindre que son collègue est mieux payé, il y a autre chose qu'on dit. Il y a quelque chose de plus émotionnel où c'est pas tant l'argent. Le problème, c'est que on a un besoin qui n'est pas nourri. Alors le besoin, parfois, ça peut être un besoin de reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnu et factuellement, ce n'est pas le cas puisque l'autre, il est mieux payé que moi. On a un besoin de justice. Bah, j'ai l'impression qu'on fait le même boulot et pourtant, je ne suis pas payé pareil. On peut avoir un besoin d'évoluer, de se dire, mais moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas été augmenté, j'ai l'impression que je n'évolue pas. Quand bien même les missions elles évoluent. Il y a plein de choses en fait qui se jouent derrière une demande d'augmentation ou une discussion sur l'argent. Tu vois, le fait que parfois je vois quand on critique les commerciaux qui sont très bien payés, bah, il y a un peu de jalousie parce qu'on voudrait autant de sous, mais il y a aussi la jalousie de mais j'aimerais être autant mis en lumière, autant valorisé et avoir leur liberté de mouvement. Parce que dans des boîtes un peu à l'ancienne, tu as aussi des commerciaux qui bougent beaucoup, qui vont voir les gens, qui sont sur la route façon de parler. Et toi, tu es à la compta toute la journée, ton quotidien il est hyper routinier et en plus, Dès qu'il y a un problème sur une facture, c'est ta faute et t'es pas bien payé. Donc, tu vois, il y a plein de choses en fait qui se jouent derrière la rémunération et on a bizarrement, alors on n'aime pas parler d'argent, mais quand on a un problème émotionnel, quand il y a quelque chose qui nous gêne, quand on est malheureux, eh ben, c'est plus facile de parler d'argent que de parler de l'émotion qui vient avec notre malaise, quoi.
Moi, ce que j'entends derrière ce que tu me dis, c'est l'équité et la motivation. Et si on sépare le truc sur l'équité salariale, comment les boîtes peuvent. Alors, et puis en plus, il y a équité salariale actuelle sur tes collaborateurs, etc. Mais aussi l'équité entre les différents genres et entre les différentes aussi origines ethniques. Donc, la question, elle est un peu à tiroir, c'est comment les entreprises peuvent s'assurer qu'elles pratiquent une équité salariale en actuel, dans les différents genres et différentes origines ethniques.
Alors, déjà, tu peux rien contrôler si t'as pas des règles. Ça paraît bateau, hein, mais il y a plein d'endroits où je passe, où je vais pas dire que ça se fait au doigt mouillé, mais pas loin en fait. On n'a jamais pris le temps de se poser et d'écrire des règles, et que du coup, en fait, on avance, on traite les problèmes les uns après les autres, et sans le vouloir, ben, on est inéquitable. Parce qu'on n'a pas traité la situation de la même façon les deux fois où elle s'est présentée. Donc, édicter des règles très claires. Déjà, ce que je constate, il y a un bénéfice caché souvent, c'est qu'au départ, on veut définir des règles pour processer, pour structurer et pour peut-être aller vers un chantier de transparence. Le bénéfice caché, c'est que quand on définit ces règles, c'est jamais simple. Et c'est une bonne nouvelle, hein. C'est jamais simple parce qu'on se pose plein de questions. Et tu prends un codir, tu les mets tous autour de la table, on se dit, OK, on en a pour 2 heures et on va écrire les règles dans l'entreprise. Et en fait, on se rend compte que sur plein de sujets, on n'est pas d'accord. Et on ne le savait même pas. Et donc, là, ça permet de repositionner les choses, de finalement, ben, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, de se mettre d'accord entre dirigeants, dirigeantes, sur comment est-ce que les règles doivent être appliquées dans l'entreprise. Une fois que ces règles, elles sont édictées, ben, il faut les contrôler. Et donc, ben, là, on sort un peu son Excel et on va regarder. Alors, en France, on dit souvent qu'on n'a pas le droit de faire des stats ethniques. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'un consultant qui travaille sur ces sujets-là, qui est quelqu'un de passionnant, m'avait expliqué qu'en fait, si les collaborateurs sont d'accord, on peut le faire. Donc, sans aller sur des critères ethniques très poussés, mais on peut déjà commencer à regarder. Une fois qu'on a édicté les règles, on sort son Excel et on regarde comment les règles s'appliquent sur le genre, sur l'âge, sur les origines sociales, sur les origines académiques. Ça, tu les as, hein. Tu sais si tes collaborateurs sortent d'école de commerce ou de la fac. Il y a des choses que tu peux commencer à faire. Si on veut vraiment être dans une démarche d'équité, quelle qu'elle soit, j'entendais, je ne sais plus combien de critères de discrimination, mais si tu veux sur une équité la plus juste possible, la plus poussée possible, tu ne peux pas t'affranchir de définir des règles, de les redéfinir régulièrement, parce que comme je te disais au départ, pour moi, toute politique part de la stratégie et des objectifs de l'entreprise. Donc quand ces objectifs, ils évoluent, bah, il faut faire évoluer les règles. Quand la culture dans l'entreprise évolue, il faut faire changer les règles. Une culture, ça peut évoluer très vite, hein. Je pense à des entreprises, notamment des startups qui, en début, enfin l'année dernière, en début d'année, ont licencié très fort. Bah, tu licencies 20% de tes effectifs, ta culture va changer. Tu recrutes très fort 15 personnes sur le trimestre, ta culture va changer. Donc, c'est régulièrement, il faut refaire le point sur OK, l'année dernière, il y a 6 mois, on s'était dit que nos règles c'était ça, est-ce qu'on est toujours OK avec ça? Ça ne veut pas dire qu'on va tout mettre à la poubelle et tout recommencer, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un comité de 3 heures, mais ne serait-ce que de prendre 1 heure régulièrement pour dire OK, est-ce que ce qu'on fait, ça a encore du sens par rapport à qui on est et où on va? C'est ça qui a de l'intérêt. Tu vois, je parle trop, du coup, j'oublie le début de ma phrase. Mais en tout cas, il faut être très au clair sur les règles et les contrôler régulièrement. Et pas que quand ça nous arrange. Tu vois, quand des entreprises se penchent sur leur équité, femmes-hommes, quand ils calculent l'index et qu'ils n'ont pas le chiffre qu'ils voulaient, et que là, du coup, on passe un temps infini à aller dans le détail pour voir pourquoi les situations, etc. Mais on aurait gagné tellement de temps et on aurait été tellement plus percutant si ce boulot-là, il était fait. Au moment adéquat, si à un moment donné on avait vraiment pris le sujet pour être sûr qu'on appliquait des choses correctes dans l'entreprise.
J'ai une question, Sandrine.
Dis-moi.
Comment tu peux m'expliquer qu'il y ait un écart entre la rémunération des hommes et des femmes? Enfin, je veux dire, moi, quand je recrute, enfin, c'est le même salaire pour hommes et femmes. Enfin, je veux dire, comment ça se fait qu'il y ait un écart?
Énorme. Alors, il y a plein de raisons. Il y a déjà le truc qu'on te dit régulièrement qui est, oui, les femmes, elles savent pas se vendre. Je trouve qu'il y a un peu de ça. En termes de posture, parfois, oui, parfois, moi, je constate que, il y a des femmes qui sont peut-être moins assertives, qui ont peut-être plus peur, mais bon, ça explique pas tout. Je lisais l'autre jour un papier de la Harvard Business Review d'une chercheuse qui disait qu'elle en avait marre, justement, qu'on dise que c'était à cause des femmes, tu vois, si elles sont pas bien payées, en plus, c'est leur faute parce qu'elles ne savent pas se vendre, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et il y a autre chose encore, c'est ce qu'elle appelait le coût de la négociation. C'est que le coût social de la négociation, c'est que finalement, une femme qui va défendre une entreprise, une équipe, c'est chouette, mais une femme qui se défend elle-même, notamment sur l'aspect financier, ben, c'est pas bien perçu. Et donc, inconsciemment, certaines ne le font pas parce qu'elles ont peur que ce soit pas bien, que ce soit pas bien accueilli. Il y a ça, et il y a quelque chose que moi j'ai vu en interne dans les chiffres, tu vois, pour repartir du j'ai besoin d'avoir les chiffres dans les mains pour comprendre. Et ça, j'ai vu dans plusieurs grosses entreprises, hein. Tu as l'index, il est très bon sur les jeunes. Tu vois, jusqu'à 30 ans, l'index, il est bon parce que, comme tu dis, bah, tu recrutes un homme, une femme, c'est pas différenciant, ils ont le même salaire. Ce qui arrive après 30 ans, c'est le premier enfant souvent. Donc la personne, elle part en congé mat. Et dans des contextes, dans des grosses entreprises, hein, où le budget augmentation, il est parfois très restreint, mais tu vois, tu as des managers qui ont quelque chose de très humain, de dire, OK, bah, elle n'est pas là, loin des yeux, loin du cœur, le peu de budget que j'ai le filé aux gens qui sont là. La personne revient, rebudget serré, et là, tu peux dire, ah bah ouais, mais alors du coup, le peu de budget que j'ai, je vais les donner aux gens qui étaient là. Pour les récompenser. Tu vois, c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup plus de règles pour encadrer ça, où une personne qui rentre de congé mat, elle a forcément une augmentation pour être sûre que. Enfin, elle a forcément une augmentation. Si les gens avec qui elle peut se comparer en ont une. Mais tu vois, il y a cet effet-là que moi, je voyais dans les chiffres. Hein. Après 30 ans, jeune diplômé, pas de différence. Après 30 ans, petite différence. Tu arrives à 40, tu as creusé un trou. Tu as creusé un trou qu'elles rattraperont jamais. Et souvent, pourquoi un trou? Parce qu'elles ont pu en faire deux ou trois des enfants. Et tu ne le rattrapes jamais. Tu vois, j'avais une grosse entreprise pour laquelle j'avais calculé l'index. Un des critères dans l'index, c'est le nombre de femmes dans les 10 personnes les mieux payées de l'entreprise. Et donc, on fait le truc. La première femme, qui était une personne importante dans l'entreprise, hein, c'était pas, elle était 17e. Donc, au-dessus d'elle, dans plein plein d'hommes qui étaient au-dessus d'elle, il y avait beaucoup d'hommes qui n'avaient pas son niveau de responsabilité, pas son niveau d'exposition, pas son niveau d'expérience. En fait, elle n'a jamais rattrapé l'écart qu'elle a eu au départ. Peut-être qu'elle a mal négocié quand elle est rentrée dans la boîte, peut-être qu'elle a fait plusieurs enfants, peut-être que. Néanmoins, si tu prends la liste des gens les mieux payés, elle est 17e. Là, mon client me dit, écoute, on va l'augmenter. Il faut qu'elle remonte. Il faut qu'elle remonte en fait, qu'elle arrive en 9e ou en 10e position, il faut qu'elle soit dans l'index parce que bah, ça fait tâche. Là, j'ai un problème, hein, parce que pour qu'elle soit 10e, il faut qu'on double son salaire. T'imagines le gap en fait qu'il y avait entre elle et tous les hommes au-dessus, alors qu'elle aurait dû être placée beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, tu vois, l'index est très critiqué parce que beaucoup de gens estiment qu'il sert à rien. Parfois, je trouve que ça permet de se poser quand même des questions. Donc, pour répondre à ta question qui est pourquoi, il y a plein de petites raisons qui font qu'on accumule parfois des écarts. Il y a des biais aussi, il y a des secteurs où on est plus rassuré quand c'est un homme qu'une femme ou inversement. C'est plein de choses et c'est un sujet qui parfois est un peu clivant, quoi. Moi, il m'arrive encore que des gens me disent, bah, c'est normal. Et puis des jeunes, hein. Donc, tu sais, moi, j'adore taper sur les vieux Michel, mais des fois, tu as des jeunes qui te disent sans trembler des genoux, moi, je trouve ça normal qu'une personne qui rentre de congé mat, elle soit moins payée que quelqu'un. Alors, mais moins payée que qui? Je sais, si c'est son collègue, hein, qui font exactement le même boulot, que le poste est le même, hein, que le rendu est le même, moi, je trouve que ce n'est pas normal et donc, elle doit être augmentée. Et t'as des gens qui disent, bah non, bah, elle n'a pas été là. Oui, elle n'a pas été là. Elle n'était pas payée pendant qu'elle n'était pas là. Elle ne bénéficie pas d'un avantage supplémentaire. Juste qu'il y a un poste qui est identique, il faut un salaire identique. Et ça, c'est des débats que j'ai hyper souvent. Et tu as aussi des gens qui disent, une fois qu'on a bien bossé sur le sujet, qui disent, ah bah, tu vois, moi, je trouve ça quand même pas juste, hein, parce que je connais plein de mecs qui sont moins bien payés qu'une telle ou une telle. Oui. C'est pas la question. Donc, tu vois, il y a encore beaucoup dans des entreprises où on n'imaginerait pas. Hein, de frein, de réticence, de relent, de je sais pas ce que c'est, du paternalisme ou de la bêtise, où finalement, on se pose pas des questions simples et pragmatiques de « ok, c'est un fait et c'est pas bien, bah, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça, quoi ?»
Oui, parce que je pense que c'est au niveau aussi de l'information. Je pense que les gens, pour ce truc de congé mat, moi j'ai déjà entendu, ouais, la boîte la paye pendant qu'elle est en congé mat et tout machin. Bah, en fait, si tu te renseignes un petit peu, non, c'est la Sécu qui, c'est pas l'employeur direct qui la paye, en fait. Elle est pas payée à rester chez elle. C'est une indemnité qui est versée par la Sécurité sociale. Alors, je crois qu'il y a des exceptions, il y a des compléments qui sont selon les conventions collectives et politiques de la boîte, mais grosso modo, non, ça coûte rien à la boîte, en fait. C'est juste une pause, comme si tu partais en congé sans solde, quoi.
Mais, et tu vois, là, il y a une personne, là, je prenais un exemple, alors c'est drôle parce que c'est quelqu'un de particulièrement de mauvaise foi. Moi, je suis très pragmatique, j'aime pas le débat, tu sais, les gens, ils adorent débattre, ils adorent échanger les idées, tout ça. Moi, je suis hyper pragmatique, ça me saoule. J'ai besoin qu'on avance, qu'on se dise, OK, il y a ce problème-là, comment on le décortique et comment est-ce qu'on le résout, quoi. Pas besoin d'en parler pendant des plombes. Donc, cette personne particulièrement de mauvaise foi, je lui donnais l'exemple, je lui imagine, tu pars au ski, tu te pètes les deux jambes, tu t'en remets pas facilement, parce que des fois, ça peut être un peu long, hein, et tu ne vas pas bosser pendant 6 mois. C'est possible, hein. J'ai déjà eu un collègue, bref, on s'en fout, mais tu ne vas pas bosser pendant 6 mois. À ton retour, tous les gens qui font le même job que toi ont été augmentés. Donc, tu fais le même job qu'eux et tu ne gagnes pas la même chose. Il me dit, c'est pas pareil, t'es en train de dire que la maternité... ça n'a rien à voir, et puis t'es en train de dire que la maternité, c'est un problème, c'est une maladie. Voilà, donc ça, c'était juste me renvoyer un argument pété pour ne pas avoir à répondre à la démonstration qui était pourtant claire. Mais il y a ce truc, il y a une légende, hein. Y a des gens qui me disent, mais non, mais elles sont payées par leur employeur, la convention collective, blablabla. Pas tout le monde. Et ça, c'est un acquis social. Si, issu de la négociation avec les syndicats, si on commence à remettre en question tous les acquis sociaux, parce qu'à un moment donné, ça nous saoule. C'est un sujet qui m'agace parce qu'on passe plus de temps à débattre là-dessus alors qu'il n'y a pas de débat plutôt qu'à être clair et factuel. Il y a des environnements où, des entreprises que j'ai vues, où on m'a démontré par A plus B qu'ils avaient du mal à recruter des femmes. Donc, factuellement, le bâtiment, c'est compliqué. Ils font vachement d'efforts pour recruter des femmes à des niveaux supérieurs. Pour moi, ça, c'est hyper, hyper pragmatique. On a du mal. OK, bah, comment est-ce qu'on peut avoir moins de mal? Oui, mais à la source, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans les écoles. OK, d'accord. Donc, tu vois, c'est simple. C'est clair. Et on n'est pas obligé d'en débattre pendant des heures et de se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Enfin, après, c'est mon avis. Ça, c'est un sujet qui me saoule un peu, mais...
Je me pose une question. Au-delà du salaire de base, c'est quoi les types de bénéfices et les avantages qui sont de plus en plus populaires chez les employeurs en ce moment?
Alors, moi, il y a quelque chose que je pense que ça va prendre un peu de place. Et c'est quelque chose que j'aime bien. C'est une forme de... Dans le milieu, on dit des flex-ben, hein, les flexible benefits. Tu vois, il y a des pays où, par exemple, la Belgique, où on a ce qu'on appelle des plans cafétériens. Donc, quand tu rentres dans une entreprise, on t'indique un budget. Alors, je dis n'importe quoi, mais on te dit, voilà, tu as droit à 3 000 euros par an d'avantages sociaux. Qu'est-ce que tu veux? En fonction de tes besoins, tu peux dire, ben, moi, je suis papa de 3 enfants en bas âge, je veux une grosse mutuelle, voilà, qui va prendre en charge tous les trucs médicaux, je vais tout mettre dans la mutuelle. Tu as une collègue plus jeune qui va dire, oulala, moi, la mutuelle, je prends le minimum parce que je suis tout seul, je suis en bonne santé. Par contre, moi, mon truc, c'est le sport ou j'ai une passion à côté qui me demande du temps, donc je vais prendre plus de jours de congé. Tu vois, alors, je donne des exemples un peu grossiers, hein. Ça, en France, c'est pas possible. On peut pas. On est obligé de proposer, par exemple, la même mutuelle à tout le monde, la même prévoyance à tout le monde. On ne peut pas laisser la main aux gens. Par contre, on peut donner un budget aux gens et chacun dépense son budget comme il le veut. Typiquement, si pour aller en vacances, tu prends beaucoup le train, tu peux dire, mais moi, ce budget, je vais le mettre en chèque vacances. Et comme ça, mais mes 500 balles de train, ce sera payé par les chèques vacances. Si tu vas beaucoup, alors beaucoup au resto, c'est pas le bon exemple, mais s'il y a un club de sport, tu veux dire, mais moi, c'est 500 euros, je vais le mettre dans mon activité sportive. C'est 500 euros, enfin, tu sais, c'est toujours le... Il y a des choses qu'on peut faire dans les tickets resto, dans les CESU, dans les chèques vacances, dans les chèques culture, enfin, il y a plein de petites choses qui, aujourd'hui, paraissent un peu accessoires et paraissent comme la propriété du CE, mais je pense qu'on peut dégager du pouvoir d'achat supplémentaire en jouant sur ces avantages. et surtout en les valorisant. D'être bien clair aux gens de combien ça coûte à l'entreprise et combien ça rapporte aux salariés. Là, ce qui s'est passé sur les chèques, les titres déjeuner, je ne sais plus comment on dit, il y a des gens qui sont susceptibles à ce sujet, avec les titres déjeuner, ça a un peu fait de bruit parce que on peut utiliser nos chèques déjeuner pour payer des courses. L'année prochaine, ça s'est terminé. Ça va frustrer beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça ensuite? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des choses comme ça où, sur les avantages qui ne sont pas absolument obligatoires et cadrés par la loi, mettre en place un petit panel d'outils, de produits, où chacun va aller piocher ce dont il a besoin.
Ok. Et grosso modo, les flexibles bénéfices, les chèques vacances, les tickets resto, etc., ça, c'est des choses, en fait, c'est de l'argent que tu peux donner qui n'est pas soumis à cotisation. C'est ça l'avantage, en fait, pour une entreprise.
Ouais. En fait, tu as une partie qui est défiscalisée. Si tu vas au-dessus, tu auras des cotisations, mais c'est un peu ça l'idée.
Ok. Et les bénéfices autres que chèques vacances, tickets resto, par exemple, activité sportive, ça c'est un bon exemple. Tu peux prendre l'abonnement en direct sur la boîte hein, en payant le hors-taxe et pas le TTC, c'est ça? Tu récupères la TVA, c'est ça l'avantage pour la boîte?
Non, l'avantage pour la boîte, c'est que au lieu de te donner 500 euros en salaire qui lui en coûte 1000, elle te donne 500 euros en chèque quelque chose. Et c'est pas, je prône pas la défiscalisation pour la défiscalisation. Hein. C'est juste une question budgétaire. C'est-à-dire que si on a 1000 à donner, ben on n'a pas 2000 sous prétexte qu'à des charges. Si on a 1000, on a 1000. Et du coup, ces 1000, comment est-ce qu'on peut les donner de manière plus efficace? Faire un peu de défiscalisation, j'ai rien contre. Après, abuser des primes de partage de la valeur défiscalisées plutôt que de faire des augmentations, ça, c'est un problème. Mais utiliser des petits leviers de défiscalisation sur des bénéfices, ça me choque pas. Et tu vois, l'autre chose qui va être un vrai sujet l'année prochaine, c'est justement le partage de la valeur, parce qu'il y a une loi qui est passée et qui va imposer qu'au 1er janvier 2025, toutes les entreprises de plus de 11 personnes doivent mettre en place un système de partage de la valeur. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui ont fait de la PPV, de la prime de partage de la valeur, ex-prime PEPA, ex-prime Macron, et qui l'a distribué un peu, je ne vais pas dire au hasard, mais en fait, je ne vais pas dire qu'il ne se projetait pas, mais en tout cas, ce n'était pas cadré comme peut l'être un accord d'intéressement où on se dit « Ok, si à telle date on a atteint tel objectif, on prend l'engagement de donner tant aux gens ». Là, avec la loi, on va pouvoir aller vers ça aussi, de se dire, on est plus de 11, si on fait des bénéfices, il va falloir les partager. Et je suis curieuse de voir ce que ça va donner dans quelques années. Là, on part sur 3 ans d'expérimentation sur plusieurs éléments de la loi, que je n'ai pas en tête, sinon ce serait plus trop facile. Mais le partage de la valeur est un sujet qui va, à mon avis, être très présent dans les entreprises.
Le partage de la valeur, tu parles, donc c'est la participation aux bénéfices. Dès lors qu'une entreprise fait des bénéfices, tu parles d'un intéressement, donc c'est lié aux objectifs spécifiques de performance de la boîte.
Ouais.
Tu peux avoir aussi, ça peut libérer potentiellement des actions, des stock options. Il y a le fameux PE, là, le plan d'épargne entreprise, où tu peux verser la prime de collective sur un plan d'épargne où en fait je crois que c'est bloqué pendant 5 ans ou un machin comme ça et en fait il paye pas d'impôt non plus le collaborateur là-dessus et toi tu payes pas de charges non plus quand tu verses la prime là-dessus.
Oui, surtout quand t'es tout petit, quand t'es moins de 100 il me semble, je sais plus si c'est 100 ou 150 le seuil, enfin bref, quand tu n'es pas une grande entreprise t'as quasi pas de charges, t'as pas de forfait social, t'as rien. Après quand tu passes un certain seuil, bon bah tu as 20% de charges, etc. Mais ça reste, en tout cas, défiscalisé pour les salariés. S'ils le placent pendant 5 ans, ils n'ont même pas d'impôt sur le revenu là-dessus. Et ça peut être un complément de revenu en cas de pépin. Ça peut être une épargne qui se constitue pour plus tard. Moi, je crois beaucoup à ça, au partage de la valeur. Et pour qu'un partage de la valeur il soit efficace, qu'il ait de l'impact, il faut qu'il y ait de la pédagogie. Tu as récemment parlé de ça avec des gens du métier et on me disait que dans les grands groupes, l'intéressement, la participation intéressement, c'est vraiment vécu comme une rente. Enfin, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue impact, RH, parce que les gens le voient comme une rente et ne se posent pas plus de questions que ça.
Ouais, comme un dû, quoi.
Ouais, et je comprends, clairement, clairement, je le constate aussi, hein. Après, on est un peu fautif. Quand je dis on, c'est les professionnels qui n'ont pas fait la pédagogie, hein. On est un peu fautif, on n'a pas bien expliqué aux gens de quoi il leur tournait. Et quand je dis l'expliquer, c'est pas quand la personne elle arrive dans l'entreprise ou pire. Parfois, on a une discussion de rémunération avec le recruteur au moment où il fait sa proposition, où il explique, ben voilà, chez nous, nous on vous propose tel salaire, il y aura peut-être telle prime, tel truc d'intéressement, tel truc, tel machin. Et après, on ne t'en parle plus. Après, la rémunération est taboue. Parfois, j'ai vraiment l'impression que le moment où on va le plus parler de ton salaire, enfin, de ta rémunération au sens large, c'est le moment de ton recrutement. Après, parfois, oui, sur l'intranet, tu vas avoir deux pages qui t'expliquent les trucs, les machins, mais c'est pas très incarné. Moi, je pense que la rémunération, au sens large, c'est un sujet dont on doit parler régulièrement. Pas que quand il y a des questions. Faut anticiper les questions, faut revenir sur le sujet, faut réexpliquer pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et ça inclut pour moi tous les systèmes de partage de la valeur. D'expliquer, ben voilà ce qu'on a décidé, voilà les indicateurs, voilà où on en est. Là, à mi-année, voilà où on en est. Et de prendre plus la parole sur ces sujets pour que ça soit moins perçu comme indu, comme normal et accepter que les gens soient un peu de mauvaise foi. C'est comme ça. Les gens sont de mauvaise foi. Donc, il faut pas toujours, faut pas fermer le dialogue parce que de toute façon, ils vont rien comprendre. Il faut pas essayer de convaincre absolument les gens. Si les gens ne sont pas d'accord avec vous, c'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent pourquoi est-ce que vous faites les choses. Ne pas être d'accord, ça mettra pas à mal le fonctionnement général. Par contre, que les gens ne comprennent pas, bah, ça va mettre une ambiance assez délétère qui aura des répercussions à long terme.
Et la contribution sociale, toi, t'en penses quoi, que les boîtes intègrent dans le modèle de partage de la valeur des dons, des œuvres caritatives ou des projets de développement durable ou des initiatives communautaires, t'en penses quoi de ça?
Alors,
C'est motivant, est-ce que par expérience, ça motive les gens?
ça dépend quel genre. En fait, on en revient à cette histoire de culture. Il y a dans des entreprises dans lesquelles j'ai passé un petit peu de temps, il y avait une vraie culture, par exemple, de l'associatif. Tu vois, et l'entreprise à laquelle je pense avait mis en place un système, d'ailleurs, ils bossaient avec vendredi, il me semble, où je ne sais plus combien de jours ils avaient par an, mais voilà, tu pouvais, aux frais de la boîte, faire des jours de bénévolat pour l'association de ton choix. Dans cette entreprise-là, les gens étaient vraiment contents de ça. Enfin, ils étaient même, il y avait un truc de, ils étaient fiers qu'on les paye pour aller faire du bénévolat. Tu vois le truc. Dans une autre, mais ça ne fonctionnait pas. C'est pas que les gens s'en foutaient, parce que ce serait leur faire un mauvais procès, mais c'est que c'était pas leur priorité. Dans leur système de valeurs, ils mettaient pas ça très très haut. Donc de leur dire tu peux faire du bénévolat ou suite à telle opération on va reverser 30% de nos bénéfices à cette association, ben ça les bouleversait pas. Pour eux ça n'avait pas de valeur. Il y a un truc hyper basique en rémunération, c'est que la rémunération, quelle que soit sa forme, hein, le salaire, les avantages, les primes, il faut que ça ait de la valeur pour les gens. Et tu vois, par des petites primes, ça n'a pas de valeur. Des petites augmentations, ça n'a pas de valeur. Et ça, enfin, sans rien, hein. J'avais vu une entreprise où 80% des gens qui étaient augmentés, donc déjà c'est parmi le quart des gens qui sont augmentés, 80% avaient une augmentation annuelle inférieure à 200 euros. Ben là, faut rien faire. Là, faut rien faire. C'est ridicule de donner aussi peu d'argent. On donnait peu, faire des, enfin, c'est un
Tu
effet
parles de 200 euros par mois ou par an?
par an.
Ah oui, par an.
Ah non, donc c'était peanuts, hein. Les gens, ils ne le voyaient pas hein, sur leur bulletin de paie qu'ils avaient auto-augmenté. Enfin, ils
Bon,
voyaient bien qu'il y a un
je
truc qui est
vois.
coulé derrière la virgule. Mais, donc, tu vois, qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour les gens? Et si pour les gens, faire du bénévolat, s'inscrire dans un tissu local, faire de l'associatif, ça a de la valeur, oui, ça peut être cool. Mais si ça n'en a pas, juste, on va dépenser des sous pour rien. Tu vois, je pense à une autre cliente sur un autre sujet. Ils avaient un problème parce qu'ils étaient dans une situation financière un peu compliquée. Et donc, ils en étaient à regarder les différents postes de dépenses. Tu vois, et qu'est-ce qui avait du sens, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Et ils arrivent à la case santé mentale. Ils avaient pris, comme tout le monde, j'ai envie de dire, un outil de santé mentale après le Covid. Cet outil leur coûtait très cher. Et d'après leurs stats, sur 300 personnes qui composent l'entreprise, tu en avais moins de 10 qui s'étaient connectés. Sauf que, bah. Tu vois, d'un point de vue symbole, enlever l'avantage santé mentale, le message, il est hyper dur. Le problème, c'est qu'ils avaient pris un avantage sans s'assurer que ça avait de la valeur pour les équipes. Ils l'avaient vraiment fait parce que c'était un sujet dont on parlait beaucoup en général, on en parlait beaucoup dans Startup Game, et c'était dit, bah oui, bah nous aussi, il nous faut notre outil de santé mentale. Manque de bol, ça leur a coûté une fortune, et personne, enfin très peu de gens se connectaient. Et quand je dis que 10 se connectaient, c'était pas des connexions régulières. Sauf qu'après, tu es dans un truc politique où bah, faut dire qu'on arrête l'outil, ça renvoie un message dans un contexte compliqué qui est pas très bon. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur pour les gens? C'est toujours pareil.
Ok, c'est intéressant. Très, très intéressant. Et alors, une autre question aussi que je me posais. Tu fais du conseil pour les boîtes, tu fais du conseil pour les collaborateurs aussi ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Ok.
Pas du tout. Je trouvais ça. Enfin, c'est pas une. C'est pas, c'est, j'avais essayé. On m'avait beaucoup posé la question. Et en fait, c'est hyper dur. Déjà, d'un point de vue financier, tu factures pas la même chose à une entreprise qu'à un collaborateur.
Oui, bien sûr.
Donc déjà, d'un point de vue financier, le modèle est hyper fragile. Et ensuite, je fais des ateliers, par exemple, des ateliers sur bah, comment, en tant que manager, tu gères une demande d'augmentation, où il m'arrive aussi de faire des ateliers pour, bah, tiens, comment est-ce que tu demandes une augmentation? Ça, c'est du collectif, on est 10, 15 autour de la table, on échange sur des trucs très factuels, tout se passe bien. Mais quand tu es en individuel, très vite, quand tu parles de rémunération et d'argent, tu vas parler de choses sensibles. Et moi, je ne suis pas formée à accueillir cette parole-là. Parfois, il y a vraiment une fois, la dernière fois que je l'ai fait, je m'étais fait un peu peur parce que la personne commençait à me confier des choses très sensibles. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je ne vais pas faire une bêtise, quoi, qui va la mettre un peu mal? On a tous entendu des histoires de personnes qui ont été conseillées par un mauvais thérapeute et qui sont sorties encore plus mal qu'ils n'étaient rentrés. Et je lui dis, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas vocation à le devenir, ça ne m'appelle pas. Donc, hyper sensible l'individuel, je trouve.
Et donc du coup, la question qui était là-dessous, c'était est-ce que tu donnes des conseils du coup aux sociétés ou aux dirigeants que tu accompagnes pour négocier les salaires avec les gens qui viennent négocier leur salaire justement?
Oui, j'essaye. Alors, j'essaye. Je te donne des conseils. Après, est-ce que les gens ont envie de les entendre? Le problème avec la rémunération, il y a plein de gens qui veulent les entendre. Le problème, c'est que la rémunération, c'est un sujet qui est autant émotionnel que technique. Comme je te disais tout à l'heure, quelqu'un qui vient parler d'argent, quelqu'un qui vient te demander une augmentation, il vient te demander des sous, mais pas que. Et souvent, même la plupart du temps, la personne qui vient demander une augmentation, elle n'est même pas consciente de son « pas que ». Elle vient demander une augmentation, c'est ça qu'elle va défendre. Elle n'est pas consciente du besoin émotionnel qu'il y a derrière. Donc, en tant que manager, le challenge, c'est d'essayer d'avoir des indices pour voir quel est le besoin qu'elle essaye de nourrir, pour essayer de répondre à la demande le plus efficacement possible. Et ben ça prend du temps. Tu vois, être vraiment à l'écoute des gens, ça prend du temps. Et il y a aussi des gens qui m'ont dit, mais moi, je considère que ce n'est pas à l'entreprise de gérer les problèmes émotionnels des gens. Ben, débrouille-toi, écoute, moi, je te dis ce que je pense maintenant. Je pense que la base... Pour moi, de mon point de vue, c'est qu'on soit plus individuellement conscient de notre rapport à l'argent. Qu'est-ce qui se joue quand on vient parler d'argent? Être plus attentif à nos émotions. Quand tu me dis ça sur mon salaire, ça m'énerve. Mais en fait, pourquoi ça m'énerve? Déjà, c'est de la colère, c'est de la frustration, et ça vient d'où? Tu vois, d'être plus attentif à nos émotions, d'essayer de mettre des mots dessus. Donc ça, c'est d'un point de vue individuel, je pense que ça peut vraiment nous aider à mieux défendre nos intérêts. Et d'un point de vue collectif, je pense qu'il faut être le plus clair possible sur les règles, une fois de plus, donc il faut définir les règles. Les définir, ça nécessite qu'on en parle et qu'on définisse clairement les termes, et qu'on le diffuse. On le diffuse et qu'on crée des moments dans l'entreprise où on sait qu'on va pouvoir parler d'argent. Ce que je trouve délicat dans l'entreprise en général, alors oui, avant que les gens m'inondent de messages, oui. Je fais beaucoup de généralités, il y a des entreprises qui font ça très bien, il y a des dirigeants qui sont hyper ouverts, qui prennent vachement de temps, je sais. En général, les gens savent pas, ont l'impression qu'ils ne peuvent pas parler d'argent. qui ne peuvent pas parler de leur salaire. Et puis, il y a même plein de boîtes qui interdisent d'en parler pendant l'évaluation annuelle, ce qui est une vaste supercherie. On dit non, mais l'évaluation annuelle, on est là pour parler des réalisations de l'année, des évolutions à venir et de ce que la personne, elle veut faire encore plus tard. On n'est pas là pour parler d'argent. Mais alors, du coup, on parle. Enfin, oui, mais c'est pour beaucoup, pour la majorité des gens, c'est le meilleur moment pour parler d'argent, puisqu'on parle de ce qui s'est passé cette année, puisqu'on parle de mes réalisations, puisqu'on parle de ma performance. Bah, c'est le meilleur moment pour parler d'argent. Et il y a plein de boîtes qui interdisent qu'on en parle à ce moment-là, sans créer par ailleurs un espace pour en parler. Parce que j'ai entendu des exemples, par exemple Lucas, je sais pas s'ils le font encore, mais à une époque, pendant l'évaluation annuelle, tu ne parles que de tes réalisations, tu parles pas d'argent. Par contre, plus tard, tu as un entretien de rémunération, tu as un espace dans lequel tu vas pouvoir parler de rémunération. Alors je sais plus si ça fonctionne tout à fait comme ça, mais ce qui m'est marqué dans leur modèle, c'est qu'il y a le moment pour parler de tes compétences et tes réalisations, de tes performances, et le moment pour parler d'argent. C'est sanctuarisé. Tu ne sors pas de ton entretien d'évaluation en étant frustré parce que tu n'as pas réussi à placer que tu voulais être augmenté. Donc, créer des moments de dialogue permettra de plus parler de rémunération. Et plus on en parle, moins ce sera tabou. Moins ce sera tabou, plus on aura des discussions apaisées et moins ce sera un sujet, en fait.
Très clair. Très très clair. Je vois que le temps, je vois que le temps file. Non, non, mais c'est très bien, moi j'adore. J'ai des questions encore au moins deux ou trois. En matière de rémunération, c'est quoi les principales différences que tu. Est-ce que tu travailles à l'international, toi?
Non,
Non?
plus. Quand j'étais
Non
en
plus.
poste, oui, là, plus maintenant, non.
Est-ce qu'il y a des choses de l'international qui sont cool et que tu aimerais ramener en France?
Est-ce qu'il y a des choses à l'international qui sont cool et que j'aimerais ramener en France? Alors, si je pouvais faire, si j'avais un pouvoir législatif, moi j'aime beaucoup les flex benefits, là, notamment le plan cafétéria dont je te parlais. J'aime vraiment bien ça. Je trouvais ça vraiment super si on pouvait chacun choisir les avantages dont on a vraiment besoin au quotidien. Moi j'aime bien, mais par exemple en Angleterre, il y a des choses qui sont faites sur le vélo. Ça paraît un peu bateau. Alors moi je te dis ça parce que j'habite en ville, mais on va me dire qu'à la campagne c'est plus compliqué. Mais il y a des choses qui sont faites notamment pour subventionner un vélo. Il y a la subvention du vélo, il y a le fait d'avoir des locaux pour le mettre en toute sécurité. C'est une petite chose, tu vois, mais ça allège un tout petit peu ton quotidien. On m'avait parlé, là on a beaucoup, là je vois, c'est parce que au moment où on enregistre, c'est l'heure du déjeuner et que j'ai faim, donc je pense à ça. Mais on m'avait parlé notamment de. C'est une forme, alors c'est pas une cantine, mais tu vois, c'était pour les petites entreprises. Au lieu d'avoir un frigo Foodles, j'ai rien contre Foodles, hein, et j'ai pas d'autres noms en tête à donner, mais au lieu d'avoir un frigo connecté dans la boîte, et ben en fait, il y avait un vrai traiteur qui livrait des plats frais, mais fraîchement faits le matin. Tu vois, c'est. Et ça paraît hyper bateau, mais c'était hyper apprécié. J'avais vu ça en Afrique du Nord. C'était très, très apprécié par les équipes d'avoir un truc, un bon repas frais et pas une boîte plastique que tu sors d'un frigo insipide. Moi, j'aime bien la décontraction qu'ont les Américains de parler de rémunération. Ça, c'est un truc qui me fascine toujours. Et quand tu as des expatriés américains, enfin des impatriés américains en France, tu vois l'espèce de choc des cultures, quoi. Et dans un atelier que j'animais, il y avait une impatriée chinoise et qui me disait en rigolant, en France, vous parlez plus facilement de sexualité que d'argent. Et qu'il y avait un vrai choc des cultures où elle, quand elle prenait un verre avec ses collègues, notamment au moment des évaluations et des augmentations, elle leur demandait, et les gens étaient très gênés, ils ne voulaient pas lui répondre, et elle voyait bien qu'elle avait créé une gêne, et qu'un quart d'heure après, bah, les gens allaient pouvoir, à un moment donné, faire une allusion à un truc, enfin pas graveleux, mais en tout cas faire une allusion à la sexualité, et elle était toute rouge, elle ne savait pas où se mettre, et elle me dit, je ne comprends pas la facilité que vous avez à parler d'un sujet aussi intime que la sexualité, par contre l'argent, c'est très compliqué. Donc ça, j'aimais bien. Et tu vois, ça me frustre parce que là, j'arrive pas à trouver d'autres exemples. Et dans une demi-heure, je vais dire, putain, j'aurais dû parler de ça.
C'est pas grave, on aura l'occasion. En plus, alors je sais pas si ce podcast sortira avant. Je pense pas parce qu'il y en a d'autres qui ont été enregistrés avant. Mais tu vas sûrement en parler sur la conférence que tu fais à HR Technologies le 25 janvier, si je me trompe pas.
Tout à fait.
Scène principale. Voilà. Et du coup, si jamais, je vais y assister à ta conférence. J'espère que tu assisteras à la mienne aussi. Et du coup, s'il y a d'autres éléments, ça vaudrait peut-être le coup de refaire un petit épisode, tu vois. Je me permets d'avancer sur une question qui m'intéresse, c'est comment tu vois l'évolution de la rémunération et des avantages sociaux dans les années à venir. Et si tu te projettes, quelles innovations pourraient émerger en matière de rémunération si on se place à vraiment très très longtemps.
Alors c'est tout le sujet de la conférence du 25 justement. C'est comment est-ce que je vois les choses évoluer. Déjà, je pense que vraiment on va aller vers plus de transparence. C'est un mouvement qui est en marche. Et en plus, moi j'ai tendance à penser que quand le législateur fait une loi sur la rémunération, c'est que il prend le train en marche. Tu vois, quand je regarde l'histoire de la rémunération, je ne vais pas te la refaire là, mais le législateur est toujours venu après la négociation. Une fois qu'une pratique était bien ancrée ou qu'un train était en marche, le législateur est venu poser une loi pour cadrer d'un point de vue général, tu vois, que ce ne soit pas juste sur tel secteur, telle convention collective ou telle géographie qu'on fasse les choses. Donc, la transparence, la directive européenne va pousser la France à faire une loi d'ici 2026, donc on y va. Derrière transparence, il y a plusieurs choses. Il y a mieux comprendre comment et s'assurer que les rémunérations sont justes, et il y a un sujet de défiance. Je pense qu'il y a le contexte de défiance qu'on a dans la société en général et dans les entreprises, il ne va pas s'en aller comme ça, quoi. Et la transparence va permettre de lever le voile sur certaines légendes qu'on peut avoir ou certaines idées fausses qu'on peut avoir, et que ça va permettre d'apaiser un peu le dialogue social parfois. Et tu vois, moi je crois au... Je rigole parce que... Mais moi je crois aux crypto-monnaies, par exemple. Je pense que, tu vois, quand tu dis transparence, méfiance... Ben en fait, très vite, tu arrives sur une philosophie qui fait très Web3 finalement. Et il y a des. Ça, j'aurais pu le dire dans ta question précédente, mais il y a déjà des entreprises, même en France, qui payent une partie des salaires en crypto-monnaie. L'idée, c'est d'avoir ton salaire en euros pour payer ton loyer et d'avoir tes primes ou ton bonus en crypto pour en faire bien ce que tu veux sans que ça passe par système bancaire. Alors. Moi, je n'ai pas de méfiance particulière avec le système bancaire, donc ça me parlait pas. Mais en fait, quand tu écoutes les gens qui sont dans Web3 et qui croient aux cryptos, eux, ils ont un vrai problème philosophique et politique à ce que tout leur argent soit dans les banques. Et pour eux, c'est important de sortir de ce système. Donc, on en revient, hein, c'est quoi qui est important pour les gens? C'est quoi leurs besoins? Et donc, moi, je pense que la méfiance va pas se lever comme ça et qu'on va aller vers, plus tard, des paiements hybrides. Enfin, une partie de ton salaire en monnaie locale et une partie en crypto pour faire bien ce que tu veux sans avoir à dépendre du système bancaire.
Ouais, et la blockchain pourrait être utilisée pour la gestion transparente et sécurisée des avantages sociaux. Ça pourrait être un avantage.
Tu vois, l'autre jour, j'entendais quelqu'un qui parlait des cryptos en général, et il disait qu'il y a quelques années, beaucoup d'acteurs sérieux, notamment les grands patrons de banques, des grands acteurs financiers, regardaient un peu les cryptos en rigolant, en disant « c'est pas sérieux ». Sauf que maintenant qu'ils ont pigé comment ça fonctionne, ils commencent à s'y intéresser. Et donc, moi, naïvement, je me dis « ok, si les banques s'y intéressent, c'est que voilà, le train est en marche. Le train est en marche et tout va aller hyper vite. Je pense que tout va aller hyper vite. Donc, plus de crypto, les flexible benefits, je pense qu'on va vraiment y aller. Dans le système où je te disais, où tu définis un budget, et puis les gens, en dehors de la mutuelle, de la prévoyance, des choses obligatoires, ça va permettre aux entreprises d'être beaucoup plus flexibles avec les besoins des gens. D'être un peu plus près du terrain, de se dire, mais de quoi les gens, ils ont besoin, et comment je peux répondre à ce besoin. Tu vois, là, récemment, je voyais une entreprise bretonne qui a du mal à recruter, une entreprise dans le bâtiment. Elle a du mal à recruter parce que Bah, le prix des loyers est beaucoup trop élevé, l'accession à la propriété est très compliquée, et bah, ils construisent des maisons. Et ces maisons, bah, ils vont les réserver en priorité à leurs salariés. Tu vois, quel est le besoin de leurs salariés? Bah, de se loger pas loin. Ok, bah, on va prendre ça en charge. Et c'est pas un exemple qui est complètement anodin. Je vois que RATP, ou SNCF, RATP, bon, un des deux. Je suis désolée, ça fait un peu Jean-Michel à peu près. Avait aussi pris un engagement là-dessus pour augmenter le parc qu'ils pouvaient avoir enfin pas le parc, mais l'accès que eux pouvaient avoir pour faciliter l'accès au logement, pardon, de leurs salariés. Parce qu'il y a un gros besoin, parce qu'il y a un gros besoin. Donc finalement, on a un peu tendance à faire toujours les mêmes choses. Tu vois, les packages de rémunération, ils se ressemblent toujours. C'est bon, tu as un salaire, parfois tu as des primes à la performance. Quelle est la performance? C'est un autre débat. Quelques primes de pénibilité. Des avantages sociaux absolument classiques dont personne ne comprend rien, la mutuelle, la prévoyance, peut-être de la participation à l'intéressement, ça se ressemble beaucoup. Et parfois, quand un DRH change d'entreprise, il doit être dans une autre entreprise. S'il doit tout monter lui-même, eh bien, il va refaire exactement ce qu'il a vu dans la boîte, dans son ancienne boîte. Moi, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi vous avez mis ça en place? Je dis, bah, c'est parce qu'on ce qu'on a, c'est ce que j'ai toujours fait. Dans ma boîte précédente, c'était comme ça, dans celle d'avant, c'était comme ça. Sans tellement avoir pris le temps, sans parfois avoir eu le temps de se reposer des questions. Je pense que plus tard, on va être sur des packages de rémunération plus spécifiques à une industrie, plus spécifiques à une entreprise, ou en tout cas, on va plus distinguer les politiques de rémunération des entreprises les unes des autres. Parce que parfois, tu prends une politique, aujourd'hui, hein, tu changes le nom, tu vois pas la différence, hein, tu n'as pas l'impression qu'on t'a fait une blague, quoi. Les politiques se ressemblent un peu trop. Je pense qu'on va aller sur plus de spécificité pour que ça réponde davantage aux besoins de l'entreprise.
Qu'est-ce que tu penses de la rémunération en temps réel, toi?
C'est-à-dire quoi en temps réel? Ah! Oui, pardon. Je travaille une journée, je suis payé à la fin de la journée.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux dire temps réel?
Bah, je pense que, tu vois, avec les progrès des systèmes de paiement, tu pourrais être payé genre au jour le jour, tu vois, plutôt que d'avoir ton salaire à la fin du mois, tu pourrais soit faire une avance sur salaire en un clic, soit être payé tous les jours.
Écoute, moi ça, je suis absolument convaincue. J'ai l'impression que ça ne prend pas encore complètement, mais j'y crois vraiment. Je pense que la fréquence de paiement au mois, elle n'est plus tellement adaptée à notre vie. Et ne serait-ce que tu as un paiement à la quinzaine, ou alors à minima faciliter les demandes d'acompte,
Ouais.
ce serait un grand pas. Parce qu'on a beaucoup d'a priori, beaucoup de jugements vis-à-vis des acomptes. Alors, dans beaucoup de boîtes, c'est galère d'en demander. Parfois, la boîte ne veut pas en donner, alors que c'est complètement illégal, elle est obligée de le faire. Et il y a beaucoup de honte. Il faut avoir un peu de courage pour aller voir sa RH,
C'est
pour lui dire,
ça,
en fait, je
c'est
suis un peu
ça.
serrée, j'ai besoin de 500 balles.
Une solution digitale, moi j'ai entendu parler de Rosalie, je sais pas
Oui.
si tu vois ce que c'est.
Oui, je vois ce que c'est.
C'est Arbia Smithy que je salue, que je connais depuis ça fait au moins 10 ans maintenant, et je suis très content pour elle. J'ai l'impression que ça fonctionne bien. C'est une solution qui permet de faire des acomptes de salaire, et ça enlève cette demande gênante au RH en disant ouais, je peux avoir un acompte. Là, tu sors ton appli, tu dis ok, c'est bon, j'ai travaillé jusqu'au 15, hop, je prends mon salaire du 0 au 15 maintenant, quoi.
J'aime beaucoup ce que fait Rosalie, surtout qu'ils ont ajouté une couche éducation financière à leur outil. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui va prendre de la place, qui va prendre un avantage qui va être un peu plus présent dans les packages. Alors pas dans tous les secteurs, hein, je pense que ça parle pas peut-être pas à tout le monde à court terme, hein, mais un jour, je pense qu'on va arriver là, où on va avoir plus davantage d'éducation financière des salariés. Et ça fera pas de mal. Parce que tout à l'heure, on le disait, mais lire un bulletin de paye, c'est quand même compliqué. Il le simplifie, mais c'est quand même compliqué. Comprendre, quand ce n'est pas du tout notre métier, l'économie de l'entreprise, c'est compliqué aussi. Donc, tu vois, plus on va aller vers de l'éducation financière, que ce soit au niveau de l'entreprise ou que ce soit au niveau des finances personnelles, plus là aussi, je pense que ce sera plus facile d'avoir des discussions avec les gens, notamment sur la rémunération.
Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la formation offerte par la boîte pour le développement professionnel du collaborateur comme un levier de bonne motivation et de rémunération aussi en même temps?
Alors, ça dépend. Ça dépend de quelle formation et ça dépend. Tu vois, le truc, c'est toujours pareil, c'est de quoi les gens ils ont besoin. Quand tu fais faire des formations, alors c'est mon avis à moi, hein, je prétends pas avoir la vérité, hein, mais quand tu fais faire des formations aux gens, à tes équipes, parce que c'est obligatoire, en gros, s'ils font pas cette formation, ils vont moins bien faire leur boulot. Bah, je trouve ça un peu gonflé de leur dire, et en plus, vous avez vu, c'est un super avantage. Et ça, parce que moi, en tant que salarié, j'en ai fait plein, des formations obligatoires dont qui n'avaient absolument aucun intérêt pour moi ou pour ce que moi je voulais faire de ma carrière. Parce que là aussi, c'est parfois on préjuge, on dit, bah, tu vas faire ça va être vachement bien pour ta carrière, mais c'est peut-être pas ce que la personne a envie de faire. Déjà, je trouve que imposer des formations, c'est délicat, donc faire passer ça pour un avantage, c'est gonflé. Déjà, si on co-choisit une formation, puis une formation qui a vraiment, vraiment de l'intérêt pour la personne. Si on lui fait faire une formation qui n'a pas d'intérêt à moyen terme, c'est compliqué. Et si, alors mieux, si c'est la personne elle-même qui vient avec une demande de formation, là, je suis d'accord pour dire, OK, tu vois, là, ça se valorise. Parce que si cette personne, elle voulait absolument faire cette formation, peut-être qu'elle aurait fait sur son temps perso avec ses sous à elle, mais en fait, c'est la boîte qui va payer, et en plus, la boîte va la payer quand elle sera en formation. Donc, c'est un double avantage. C'est on t'accompagne, en tant qu'entreprise, on t'accompagne dans ce projet-là parce qu'on trouve que c'est chouette. C'est pas le même message, quoi. C'est pas je te fais faire une formation parce qu'il faut que tu sois certifié en je sais pas quoi, que bah tiens, t'as ce projet-là, je trouve ça sympa, on va t'accompagner.
Ok. Et sur tout ce qui est bien-être des collaborateurs, des applications de méditation, des programmes de soutien psychologique, ou des jours de congés supplémentaires comme des primes ou des machins comme ça, t'en penses quoi de ça?
Bah, il y a des endroits dans lesquels ça marche bien et des endroits dans lesquels ça marche pas. Je discutais avec un camarade complètement qui se reconnaîtra, je salue, que je peux pas citer, mais je le salue. Comme ça, je vais voir s'il écoute mes podcasts. Lui, là, dans son entreprise, les gens ont du mal à prendre leur congé. Tu vois ce qu'on parlait du temps. Est-ce que donner plus de temps aux gens. En fait, dans sa boîte, les gens ont du mal à prendre leur congé. Il faut que la RH régulièrement fasse des rappels pour dire là vous avez tant de jours à poser avant la fin de l'année. Donc dans cet environnement-là, si tu dis aux gens, allez, je suis grand prince, je vous mets la semaine de 4 jours, on va te regarder et dire, mais de quoi tu parles en fait? Parce que c'est pas ça qu'on voulait. Et pareil, tu vois, pour Petit Bambou, enfin Petit Bambou, pardon, les applications de méditation, à un moment donné, tout le monde voulait en mettre. Et personne ne les utilise. Donc, ce que j'en pense, c'est que moi, ça me gonfle. À chaque fois, je m'abonne et puis après, l'abonnement, il tourne pendant 6 mois sans que j'utilise. Et je suis pas la seule dans ce cas-là. C'est qu'au final, de quoi ont besoin les gens? Moi, j'aurais adoré, quand j'étais salariée, avoir la semaine, enfin, avoir du temps en plus. Et pourtant, j'étais dans la banque, hein, du temps, j'en avais. Hein. Mais c'est un environnement dans lequel j'avais davantage, par exemple, de primes. Et il y a des gens à qui ça va très bien. Les gens, ils veulent du cash. C'est ça qui les motive parce que ce cash leur permet d'accéder à ce dont ils ont vraiment besoin. Donc finalement, de quoi on a vraiment besoin? Mon besoin à moi, c'est de bander sur mon canapé à lire. Bon, bah, si tu me files des sous pour ça, c'est pas que là où je vais me nourrir.
Ouais, après, pour les entreprises aussi, quand tu les conseilles, il faut que. Alors, du cash pour du cash, ok, super, parce que tout le monde a besoin de cash. La stratégie de rémunération aussi d'une entreprise, c'est de donner plus en payant moins de charges. Aussi, c'est un peu tout l'enjeu du machin. De se dire, je vais contenter la personne, je vais lui donner un levier de motivation supplémentaire grâce à l'argent ou la reconnaissance ou ce genre de choses. Soit je te motive par le challenge, la compétition, l'atteinte d'objectifs et la carotte. Soit je te motive par des choses plutôt collaboratives, des choses plutôt orientées sur on va dire l'équité, l'inclusion, le bien-être. Ça peut être aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la contribution sociale, caritative, développement durable et tous ces trucs-là. Il y a des gens qui sont sensibles. Tu penses que on pourrait faire un questionnaire pour tous les collaborateurs et faire du cas par cas derrière?
Alors, ce serait hyper ambitieux. Et pourquoi pas, hein, parfois, soyons ambitieux. Moi, je pense que oui. Et puis, là aussi, une fois qu'on a le questionnaire, on n'est pas obligé de. de faire du cas par cas, mais quand tu vois qu'il y a une tendance qui se dégage, bon, on peut peut-être aller vers cette tendance-là sans faire du cas par cas. Et puis parfois, ça permet aussi de voir que la culture, elle change. Quand parfois, il y a des dirigeants et des dirigeantes, quand on commence à travailler, il y a des choses dont ils sont absolument persuadés, et puis plus tu avances, plus ils se rendent compte que l'entreprise, elle a pris un virage d'un point de vue culture, mentalité, qu'ils n'ont pas vu venir en fait. Et eux-mêmes, ils sont déconnectés de leur base. Parce qu'ils vivent dans une. Parce que quand on a le nez dans le guidon, on ne fait pas forcément attention. Et donc, tu as ce type de sondage, de dire, bah, en fait, de quoi vous avez besoin, tu vas peut-être te rendre compte que ouais, les équipes, elles ont des besoins majoritairement que tu n'as peut-être pas anticipé. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on fait du cas par cas? Et donc, à gérer, ça va être un challenge, on va dire. Mais ça peut valoir le coup. Ou non, on se dit, bah non, il y a 50%, 40% des gens qui ont répondu exactement la même chose, ça vaut peut-être le coup. De regarder. Donc je pense que j'aime pas les autant je suis pragmatique, autant j'aime pas les solutions simples qui est de il y a un truc, on l'implémente et ça roule. Non, faut qu'on se pose un peu, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on se challenge et qu'on teste des trucs. On fait pas assez de test and learn et en matière de rémunération, on a toujours peur. Alors, en général, test and learn, c'est compliqué, mais alors en rémunération, on a peur de ne pas pouvoir revenir en arrière. Mais je pense que ça vaudrait le coup parfois de dire aux gens, on va tester ce truc-là. Pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, on va mettre en place ça et on voit comment ça fonctionne. Et si on est content, dans 1 an, on continue. Sinon, on ne continue pas. Bon, bah, peut-être que les gens, au bout d'un an, ils vont être déçus qu'on ne continue pas, mais on l'aura pas. Enfin, on aura tenté un truc. Et si on communique bien, bon, les gens, ils vont comprendre. Ils ne sont peut-être pas d'accord. Ils vont comprendre.
Très clair. Très, très clair. Ben, je pense que, effectivement, et puis c'est quand même une gestion, hein, une gestion particulière. C'est faire du cas par cas, c'est du temps. Et il y a plein de sous-couches aussi qui sont pas vues par le collaborateur, comme quoi toute la gestion, en fait, tu payes des gens à faire ce truc-là.
Et oui, et c'est comme la paye. Hein. Si tu écoutes les gens, pour en revenir hein, comme ça, tu me diras la boucle est bouclée. Il y a plein de gens qui pensent que la paye, tu allumes ton ordinateur, tu lances ton logiciel, tu appuies sur un bouton et c'est parti. Ils ne voient pas le boulot qu'il y a derrière et ce que ça représente. Donc oui, un système comme ça, tu as toujours quelqu'un qui me dira oui, mais non, tu peux mettre un outil, nanana. Bah oui, enfin, faut quand même administrer un petit peu cet outil, et donc il faut qu'il y ait des gens derrière qui réfléchissent.
Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a une chose qu'on n'a pas abordée aujourd'hui que tu aurais aimé aborder, Sandrine ?
En fait, c'est vrai que j'étais contente que tu parles de Rosalie parce que c'était un sujet que je m'étais dit ça c'est intéressant et j'avais oublié, donc c'est cool que tu aies pensé à Armia. Moi j'ai un petit regret, c'est l'actionnariat salarié.
Ah oui.
C'est quelque chose que j'aime bien philosophiquement, politiquement, et je vois bien que ça prend pas.
Les fameux BPCE.
Alors les ça.
BSPCE. Non,
ouais, je rigolais parce que pas pour voilà la mauvaise prononciation, mais ça pour moi il y a des gens qui y croient absolument, qui imaginent être la prochaine belle histoire française, et d'autres qui y croient pas du tout. C'est pas toujours très bien vendu les BSPCE. Et même en dehors de l'univers startup et de ce système de stock options-là, c'est dans d'autres PME. Le développement de l'actionnaire à salarié. Là, tu vois, avec le projet de loi du partage de la valeur, enfin le projet de loi, la loi maintenant, du partage de la valeur, il y a un truc un peu, un peu cosmétique, je trouve, qui est de proposer une prime aux salariés en fonction de la valorisation de l'entreprise. C'est-à-dire que. Si en 3 ans, la valorisation de l'entreprise, elle augmente, et ben, même si les salariés ne sont pas propriétaires, ils n'ont pas d'action, et ben, ils touchent quand même une prime comme s'ils touchaient un dividende. Moi, ça me gêne parce qu'il y a des entreprises cotées où ça va être facile de dire bah oui, bah, au 1er janvier 2024, l'action était à tant, donc dans 3 ans, si elle a augmenté, vous touchez une prime. Les entreprises non cotées, ça va être plus compliqué. Ensuite, c'est pas parce que la valorisation de l'entreprise elle augmente que l'entreprise elle aura le cash. Pour payer les salariés. Et donc, je trouve ça un peu cosmétique. On m'a répondu que L'actionnariat salarié, c'était compliqué administrativement. Bah, tu vois, je regrette qu'on ait mis une surcouche dans ce projet de loi plutôt que de faciliter justement l'actionnariat salarié tout court, quoi.
Ouais. Bah, puis il y a aussi un truc, c'est que le BSPCE, c'est quand même un levier de motivation pour les collaborateurs. Mais derrière, je discutais avec des entrepreneurs. Les BSPCE, c'est quand même des choses où quand ça se passe mal, ben le collaborateur doit quand même sortir de l'argent, du cash, pour réacheter ses primes, si jamais, enfin ses BSPCE, pour y avoir accès, pour avoir des points. C'est un taux fixé à date d'attribution qui nécessite aussi au collaborateur de sortir du cash pour l'avoir. Dans un cas de séparation, quand tu quittes une boîte, ben du coup tu le récupères pas ton BSPCE. T'as pas envie d'acheter une action d'une boîte que tu quittes, quoi.
Ben, des fois, oui. Des fois, il y a des gens qui ont envie, mais pas tout de suite. Et tu vois, il y a des. Ce nom m'échappe. Je déteste quand je fais ça. L'ancien dirigeant de Captentra, qui a monté une banque. Le nom m'échappe, ça m'agace, mais bon. Et eux, justement. Alors, je ne sais pas si c'était déjà le cas chez Captentra, mais si tu as des BSPCE et que tu quittes l'entreprise, tu as autant de temps que tu es resté dans l'entreprise pour exercer. Donc si tu es resté 4 ans dans la boîte, tu as 4 ans pour exercer tes BSPCE. Souvent, ce que moi je vois, c'est un mois. Quand tu pars, tu as un mois pour exercer tes BSPCE. Bon, quand tu quittes un job, t'as pas forcément le cash et tu n'as pas envie de sortir autant de cash en une fois pour acheter tes BSPCE. Il y a des fois où tu quittes l'entreprise parce que bah, tu ne t'y retrouves plus, mais tu n'es pas fâché et tu crois encore au projet. Et que tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien garder ces actions-là parce que le projet, j'y crois vraiment. Et donc, quand dans 4, 5, 10 ans, ils vont lever des millions, et ben, je veux pouvoir récupérer une partie de l'investissement que moi j'ai mis dans cette boîte. Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, donc je ne sais pas comment je vais la finir, mais il y a des gens, quand ils partent, ils aimeraient exercer leur BSPCE, ils ne peuvent pas parce que le délai il est trop court et qu'il faut sortir beaucoup de cash en une fois, quoi. Donc, et ça, c'est à la main de l'entreprise, hein. Donc, ça, ce n'est pas un truc administratif ou légal. On peut décider de donner 6 mois, 1 an aux gens. Et souvent, quand je donne cet exemple-là, moi, il y a des gens qui m'avouent après en me disant, mais moi, quand je suis partie de telle entreprise, j'ai pas exercé parce que j'avais peur de sortir autant de cash alors que je prenais un risque à laisser mon CDI, etc. Ben, si j'avais eu du temps, je l'aurais fait parce que je regrette d'avoir lâché autant de BSPCE au prix où elles étaient.
Ouais, je comprends. Il y a donc BSA, c'est bon de souscription d'actions directes, et BSPCE, c'est un taux fixé à différer au moment où la personne peut monter dans le bateau, quoi. Ok, et il y a encore un autre élément que tu voudrais aborder?
C'était voilà, mon petit regret de l'actionnariat salarié où quand on l'a théorisé, qu'on l'a mis en place, c'était pour associer davantage les salariés à l'avenir de l'entreprise et je vois bien que ça prend pas autant que j'aimerais le voir. Voilà, c'est tout.
Ouais. Ok, super. Dernière question, Sandrine. Si on devait donner un nom à cet épisode, ce serait quoi?
La rémunération, ce n'est pas qu'une question d'argent.
Allez,
Amener
c'est
à
pas
toutes
mal.
les
Celle-là, tu l'as préparée, hein, j'ai l'impression.
C'est mon slogan.
C'est ton slogan?
Oui.
Ok, d'accord, super, top. Eh ben, merci. Alors, le podcast touche à sa fin. C'est terminé pour aujourd'hui.
Déjà?
Merci d'avoir. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous abonner sur les plateformes. Hein, on est à peu près partout. Deezer, Spotify, Apple, Google Podcast et d'autres plateformes aussi plus spécialisées. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, bah, n'hésitez pas à nous l'envoyer, ce sera avec grand plaisir. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous noter aussi 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Sandrine.
Merci Aurélien.